Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, très bon réveil à tous. On espère que ce n'est pas trop dur ce matin. Et en tout cas, on va tout faire pour vous aider à vous extirper de la couette.
Voilà, pas mieux. Pour le coup de pouce, la voix et la dextérité sur son instrument d'un des meilleurs guitaristes au monde.
Eric Clapton, évidemment, que vous avez reconnu avec sa version acoustique de Leila, non seulement pour démarrer du bon pied, mais aussi pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Eric Clapton qui fête ses 77 ans aujourd'hui.
Nous sommes le 30 mars dans l'actualité, Julien.
Peut-être un tournant dans la guerre en Ukraine, un tournant diplomatique. Les pourparlers d'hier à Istanbul sont jugés positifs par le président Zelensky. L'armée russe ayant annoncé réduire son activité militaire près de Kiev, notamment, mais les Occidentaux restent prudents et attendent des actes. Pendant ce temps-là, les Ukrainiens tentent de survivre, mais aussi de protéger tant bien que mal leurs monuments et leurs trésors historiques.
Le patrimoine menacé par les bombes, la guerre fait craindre la destruction de collections d'art inestimables. Nous avons tous vu les images du théâtre de Mariupol en ruine. Au début du mois, un incendie a ravagé un musée et détruit les œuvres de Maria Primatchenko, l'artiste admirée par Picasso.
Alors comment protéger les richesses culturelles de l'Ukraine? Quelles aides sont apportées aux Ukrainiens pour mettre en œuvre les œuvres à l'abri?
Oui, nous serons avec Sylvain Amic à 5h45. Il est le directeur des musées de la métropole Rouen-Normandie et il a lancé un forum culturel pour faire vivre la culture et le patrimoine ukrainien menacé. À la une également, une nouveauté.
Oui, si vous êtes lyonnais et que vous avez déjà pris votre voiture ce matin, vous avez sûrement remarqué que votre ville est devenue dans la nuit une immense zone 30. C'est la vitesse limite désormais pour circuler dans la capitale des Gaules.
30 km/h au lieu de 50, une mesure en vigueur également à Paris depuis le mois d'août dernier.
Absolument, et on a donc désormais un peu de recul, d'où cette question, est-ce que ça marche d'abaisser la vitesse? Est-ce que ça fait baisser la pollution, tant atmosphérique que sonore? Et puis on va aussi s'intéresser aux ZFE.
Les zones à faible émission qui fleurissent un petit peu partout. La plus récente a été créée au début du mois à Toulouse.
Leur objectif, interdire progressivement la circulation des véhicules les plus polluants dans les centres urbains, les critères 5, 4 et bientôt 3. Problème, ça concerne tout de même près de la moitié des automobilistes français. On en parle à 6h10 avec l'expert en mobilité Franck Cazenave. Et puis, votre partition pour conclure.
L'un des plus grands groupes de rock dès la fin des années 90. Les Red Hot Chili Peppers et l'album Californication qui les fait entrer dans une nouvelle dimension, la partition à 6h20.
Voilà pour l'essentiel du programme, la météo. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors, je le dicton du jour.
Ah.
Souvent, la Saint-Amédée est de mars la plus belle journée. C'est vérifié ou pas?
Il est bidon ce dicton.
En tout cas,
alors,
pour aujourd'hui.
On est sur du totalement faux. C'est-à-dire que s'il y a bien une journée où il n'y aura pas un rayon de soleil, on a un plafond gris au-dessus de la tête, c'est bien la Sainte-Amédée. Donc il va falloir revoir. Alors, on va appeler dicton.fr, on va les contacter, il va falloir refaire tout ça. C'est très nuageux aujourd'hui, très agité sur de nombreuses régions. En fait, on a des nuages partout et on aura des averses qui vont rythmer la journée. C'est entre les Pyrénées et la Franche-Comté, en passant par l'Auvergne, que les pluies seront les plus fortes. En Provence, Côte d'Azur, on a des petites averses. En Corse, là, ce sont des pluies un petit peu plus abondantes. On a du vent aussi hein, sur le littoral varois. De la Gironde jusqu'au centre, en passant par la Charente. Ah, là, on a un temps sec. On a une petite poche, là, du côté de la Gironde, où le temps est sec ce matin. Enfin, ça n'a pas duré. La pluie arrive cet après-midi. Au nord de la Loire, de la Bretagne à la Bourgogne, on a des averses qui vont se succéder toute la journée. Et dans l'après-midi, il y aura quand même du soleil et les plus chanceux sont dans les Hauts-de-France où là, on retrouve un temps sec et ensoleillé cet après-midi. Alors les températures 12 ce matin, 5 à Charleville-Mézières, 9 à Paris et déjà 15 degrés à Toulon. Cet après-midi ça baisse mais ça sera de saison.
Bon, la Saint-Amédée est de mars la pire journée. Voilà, c'est corrigé. Merci beaucoup Anissa Dadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une ce matin, cette nouvelle discussion Poutine-Macron, mais aucun accord trouvé pour mener une opération humanitaire à Mariupol, alors qu'au même moment, pour la première fois depuis le début de la guerre, des négociations jugées constructives ont eu lieu entre Kiev et Moscou. C'est une date attendue de tous les automobilistes. 1er avril va rimer avec ristourne, 18 centimes en moins par litre de carburant, essence ou gazole dont les prix flambent à nouveau à la pompe. Une réduction bienvenue, d'ores et déjà appliquée dans certaines stations-service. Et puis, les Bleus avaient de l'énergie à revendre hier soir. 5-0 face à l'Afrique du Sud, doublé de Kylian Mbappé et Olivier Giroud, une fois de plus buteur. Les deux attaquants n'ont qu'un objectif en tête, détrôner Thierry Henry, le meilleur réalisateur de l'histoire de l'équipe de France.
Europe Matin, Omblin
Pauline Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mercredi 30 mars vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Un nouveau coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine hier. Une heure d'échange en grande partie consacrée à la situation des civils toujours coincés dans la ville ukrainienne de Mariupol. Résultat, pas grand-chose. Les discussions ne sont toujours pas, les conditions, pardon, ne sont toujours pas réunies à ce stade pour mettre en place des évacuations, estime l'Élysée. Les précisions, Arthur Delaborde.
La position de Vladimir Poutine est extrêmement dure selon l'entourage d'Emmanuel Macron. 160 000 civils toujours pris au piège à Mariupol, mais il refuse de les laisser quitter la ville ou que de l'aide soit acheminée sur place. Immédiatement après l'échange téléphonique, le Kremlin a d'ailleurs appelé, je cite, les combattants nationalistes ukrainiens à déposer les armes avant toute opération humanitaire. Autre sujet abordé, les négociations à Istanbul entre les représentants de Kiev et de Moscou. Sur ce point, pas de commentaire de l'Élysée avant de connaître la position du président Zelensky qui doit parler avec Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Enfin, le président français et Vladimir Poutine ont aussi discuté des conditions de paiement du gaz. La Russie exige que les factures soient réglées en roubles pour contourner les sanctions internationales. Un scénario inenvisageable pour Emmanuel Macron.
Arthur Delaborde, j'ajoute qu'à l'issue de nouveaux pourparlers organisés hier en Turquie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit voir des signes positifs mais n'a pas l'intention de relâcher les efforts militaires.
Car la Russie s'engage à réduire les combats, à retirer une partie de ses troupes autour de Kiev et d'une deuxième grande ville.
Oui, hein, mais l'état-major ukrainien se montre tout de même prudent, voire sceptique par voie de communiqué. Il pourrait s'agir d'une rotation d'unités visant à tromper le commandement militaire ukrainien. Les Occidentaux se montrent tout aussi méfiants et assurent vouloir juger Moscou sur ses actes.
En tout cas, sur le terrain, les bombardements se poursuivent, notamment à Irpin, en banlieue de Kiev.
La ville a été libérée avant-hier, selon les autorités, mais paradoxalement, la situation devient plus compliquée. Les Russes veulent reprendre le contrôle de la zone. Plus de bombes et donc plus de blessés. Pour les soigner, un Français notamment, Nicolas Bourbouze, le pompier et fondateur de l'association La Maison du Sauvetage, est venu de France avec son ambulance. Il a beau être terrifié, il est convaincu qu'il faut aider.
Il y a des bombardements régulièrement. Quoi. Là, par contre, c'est côté russe, là, qui vient d'arriver.
Ça, c'est des arrivées.
Ça, c'est des arrivées. Donc, il y a des départs, il y a des arrivées. Bah, c'est vraiment super chaud, quoi, clairement.
Le niveau de stress pour vous, c'est de 1 à 10, là, c'est comment?
Oh, bah, on est à 20. On est à 20. De 1 à 10, on est à 20. Ouais, clairement. Parce que les obus, on ne sait pas où ils arrivent. J'ai récupéré un éclat dans l'ambulance. Voilà, donc, c'est très dangereux. J'en suis conscient, il y a un risque, il est réel. Mais quand vous voyez le nombre de personnes qu'on arrive à ramener, qui sont eux vraiment en danger du côté du pont, ça peut être que satisfaisant à continuer. La cause que je défends là aujourd'hui, c'est la cause des civils. Je m'en contrefous de la guerre, c'est ce qui m'importe, c'est les civils qui sont en réel danger.
Le témoignage recueilli au micro Europe 1 de notre envoyé spécial en Ukraine, Nicolas Tonev.
On revient en France avec cette question. Et vous, faites-vous partie de ces automobilistes qui attendent vendredi pour faire le plein, quitte à se retrouver sur la réserve?
Oui. Et pourquoi vendredi? Parce qu'après-demain, chaque litre de carburant acheté sera synonyme d'une remise de 18 centimes à la pompe. Réduction normalement effective à partir du 1er avril donc, mais certaines stations-service Maud Descamps ne jouent pas le jeu et l'appliquent déjà.
En effet, tous les distributeurs de carburant s'étaient engagés à appliquer le rabais à partir de vendredi. Ils ont même signé une charte allant dans ce sens. Et pourtant, certains, comme Leclerc, n'ont pas attendu et vendent déjà avec la remise de 18 centimes. En fait, toutes les stations-service n'ont pas encore pu remplir leur cuve avec du carburant à prix réduit, notamment les petites stations qui ne refont leur stock que tous les 10 jours. Pour Francis Pousse, président des propriétaires exploitants de stations-service qui représentent un peu moins de la moitié des stations en France, il s'agit de concurrence déloyale.
Vous comprenez bien que ça déséquilibre le marché et en particulier les stations à faible volume qui, elles, n'ont même pas encore reçu un produit à moins 15 centimes hors taxe. Et pendant ce temps-là, d'autres se permettent de commencer à vendre moins cher. C'est absolument anormal.
Contacté par Europe 1, le groupe Leclerc n'a pas donné suite. Du côté du ministère de la Transition écologique, on confirme qu'une charte a bien été signée, mais il n'y a pas d'obligation légale à attendre le 1er avril. Nous appelons évidemment tous les signataires à respecter leur engagement. À tout a-t-on indiqué dans l'entourage de la ministre Barbara Pompili.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Oh, le procès des attentats du 13 novembre, la journée d'hier a été marquée par des aveux.
Ceux de Mohamed Abrini, après plus de 6 mois de procès, celui qu'on surnomme l'homme au chapeau, avait promis des révélations la semaine dernière et hier il a parlé sans forcément convaincre Gladys Laffitte. Il a reconnu qu'il devait faire partie du commando avant de renoncer.
Ah oui, c'est Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attaques, qui lui annonce en septembre. Mohamed Abrini décide de refuser, incapable de tuer des gens comme ça, selon ses mots. Mais il n'en informe Abaoud que le 12 novembre. Ce gilet explosif et cette calache, en plus, je cite, iront donc à Salah Abdeslam, qui prend sa place, poussé par son aîné, Brahim, qui lui savait tout, selon Mohamed Abrini, alors que lui assure n'avoir connu ni les cibles, ni le jour de l'attaque, même la veille. Dans la salle, peu nombreux sont ceux qui semblent croire à cette version, ni le président qui fait souvent la moue, l'air dubitatif, et encore moins l'avocat général qui pose des questions précises et pressantes, pointe ses nombreuses contradictions. Face à lui, l'accusé se gratte la tête, regarde ses avocats et tourne en rond dans ses réponses. Pour l'accusation, tout ceci n'est pas crédible. Mohamed Abrini et Salah Abdeslam étaient bien prévus pour l'attentat. Ce dernier, qui a beaucoup discuté avec ses voisins de boxe, sera interrogé justement aujourd'hui par la cour.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Réorganiser les équipes de jour et de nuit, mettre en place des repas enrichis. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France impose des changements drastiques à l'EHPAD Orpea bord de Seine.
Maison de retraite particulièrement concernée par les révélations du livre Les Fossoyeurs. D'ailleurs, toutes ces mesures sont listées dans un rapport dévoilé hier. Le groupe Orpea s'excuse auprès des résidents et des familles et répond. Il mettra en place ces changements dans son établissement de Neuilly-sur-Seine dans les meilleurs délais.
Le foot, 5-0, on peut appeler ça une claque.
Ouais, résultat sans appel pour les Bleus qui accueillaient hier soir au stade Pierre Mauroy l'Afrique du Sud en match amical. Un spectacle début, 48 000 supporters en liesse devant la performance de l'équipe de France, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé, une réalisation d'Olivier Giroud, deux joueurs qui visent le titre de meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Cédric Chasseur.
En à peine 54 matchs, le voici déjà à 26 buts. Kylian Mbappé vise officiellement le record de Thierry Henry, auteur de 51 réalisations. Un objectif parmi d'autres pour le sélectionneur Didier Deschamps.
Sa capacité qu'il a accélérée à marquer, ça le classe parmi les joueurs hors normes. Mais il a cette intelligence aussi de s'inscrire dans un collectif. C'est pas Kylian et les autres, c'est Kylian avec le groupe et c'est quelque chose qui est important.
D'ici là, Olivier Giroud pourra peut-être dépasser Thierry Henry. Hier, il a encore marqué son 48e but en bleu à 3 unités seulement du record. Reste à savoir s'il aura une chance de le battre. Didier Deschamps, botte en touche.
L'avenir, il sait pas, je sais pas, ça dépendra de beaucoup de choses. Donc après, on verra au mois de juin.
Et en juin, 4 matchs attendent les Bleus, 4 nouvelles occasions de chasser le record de Thierry Henry.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h09, ce sont les courses avec Thierry Léger, le pari gagnant comme chaque matin. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Salon de Provence et mon pari gagnant sera le 307 Épi des Landes. Déjà lauréat à 7 reprises avec son propriétaire amateur, l'excellent Pascal Garraud, champion de France en titre des drivers amateurs. Eh bien ce tandem reste sur une très facile victoire le 8 mars sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et il n'y a aucune raison pour que ce duo qui s'entend à merveille ne puisse pas une nouvelle fois dicter sa loi dans cette deuxième étape du Grand National du Trot des Amateurs. Notez bien pour cet après-midi à Salon de Provence, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 7, Épi des Landes.
Le numéro 7, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h10 précise, l'heure de votre revue de presse, les trois histoires du pressing et autour de la table, Martin Lange, bonjour.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Les unes de vos journaux pour commencer, Russie-Ukraine, enfin une négociation se réjouit le Parisien aujourd'hui en France. Un fragile espoir tempère les échos, l'heure ou lueur s'interroge Libération avec encore une fois une photo édifiante en une. On y voit deux hommes assis sur un banc dans un jardin d'enfants cerné par des immeubles éventré par les bombes. Le Figaro, la dette publique, grande oubliée de la campagne, titre Le Quotidien. Avec 2813 milliards, la France a l'un des taux d'endettement les plus élevés d'Europe. Et pourtant, le sujet n'est pratiquement jamais évoqué dans le débat public. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
On aurait dû se douter, l'automne dernier, qu'il se tramait quelque chose. Voilà, ça vous dit quelque chose, bien sûr. Oui, on aurait dû se douter quand TF1 a consacré trois soirées souvenirs à la Star Academy. Les 20 ans de la Starac étaient célébrés en grande pompe. Et la chaîne a eu de quoi se réjouir, car les trois soirées ont fait un carton auprès de la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour convaincre TF1 de relancer le programme. Voilà, c'est une information Le Parisien aujourd'hui en France. Préparez-vous à pénétrer à nouveau dans le château de Damary-les-Lys, ou l'équivalent, puisque le lieu des tournages des quotidiennes n'a pas encore été déterminé. Car oui, ça c'est une bonne nouvelle quand même. On va retrouver la Starac plus ou moins comme on l'a laissée, avec les coulisses de la préparation des candidats diffusée chaque jour et la grande messe, le prime, le samedi soir. Il y a 20 ans, 16 apprentis chanteurs, 8 filles, 8 garçons s'apprêtaient à vivre l'aventure de toute leur existence. Il faut rappeler qu'ils chantaient en duo sur scène, en direct, avec de très nombreux artistes et certaines des plus grandes stars internationales, de Madonna à Stevie Wonder, en passant quand même par Beyoncé. Entre 2001 et 2008, on a fait la connaissance de Jennifer, de Nolwenn Leroy, de Grégory Lemarchal, de Cyril Sinelu.
Qui ça ?
Reste cette question qui nous brûle les lèvres. Est-ce que Nikos Aliagas va revêtir à nouveau le costume de Monsieur Loyal ? Alors il serait en pourparlers. Il se murmure aussi qu'il pourrait être accompagné d'une co-animatrice. Tout ça est bien mystérieux pour Nikos, donc on ne sait pas vraiment. En revanche, ce qui semble être acquis, c'est que tout le casting de prof devrait être renouvelé. Exit Kamel Wally ou Armand Altaï, a priori. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Mais peut-être qu'ils seront là. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas grand-chose en fait. Le projet est top secret, mais dans les couloirs, on évoque quand même un gros truc pour la rentrée. C'est en tout cas ce que rapporte Le Quotidien, Le Parisien aujourd'hui en France. Voilà, tenez-vous prêts, la Starac prépare son retour.
Ah, la musique se tient prêt, effectivement. Merci beaucoup, Omblin. Martin, vous.
Tout autre sujet. Qu'est-ce que vous envisagez pour vos vieux jours, Omblin, Julien ?
Dormir.
Poser pour
dormir la nuit.
Dormir la nuit. Ça, c'est un beau projet, ça me plaît bien.
Alors, une suggestion ce matin, la retraite dorée de cet Américain. Il s'appelle Mario Salcedo. Il a décidé de voyager jusqu'à la fin de ses jours, mais pas n'importe comment. L'ancien financier a choisi de vivre sur des paquebots de croisière et ça fait 23 ans que ça dure.
Ah oui,
quand même.
Mario Salcedo, ce n'est pas monsieur tout le monde, pour se le permettre. Il était directeur financier dans une grande multinationale. Il gagne très bien sa vie. Mais à 47 ans, il décide de tout plaquer et de voguer sur les océans du monde entier. On est en 1997 et Mario entame sa toute première croisière. L'expérience lui plaît tellement, à la mer, bien sûr, les escales, et puis tout est à portée de main. C'est décidé, il va vivre le restant de ses jours sur les paquebots de la Royal Caribbean. Épuisé, il a décidé qu'il était temps de poursuivre l'objectif de toute une vie, faire le tour du monde sans quitter son domicile. Ça pourrait être le pitch d'un film. Eh bien, figurez-vous que c'en est un. En 2018, le journaliste du New York Times, Lance Oppenheimer, lui consacre un documentaire, L'homme le plus heureux du monde.
I mean, you know, people come here for vacation, I don't. I come here to live my life.
Les gens viennent ici pour passer des vacances, pas moi, je suis ici pour vivre ma vie, lance un Salcedo hilar au début du reportage. Depuis 1997, il n'a quasiment pas remis les pieds sur terre, sauf durant la pandémie, un vrai crève-cœur pour notre marin.
Bon alors, qu'est-ce qui lui plaît autant sur ces paquebots ?
Eh bien, fuir les petites galères du quotidien. Vous vouliez dormir, lui, Mario, ne veut plus sortir les poubelles, plus faire le ménage. Il passe juste ses journées à contempler la mer et à faire ce que bon lui semble. Alors évidemment, pour vivre ainsi, Mario a dû couper les liens avec tous ses proches. Pas grave, il s'est fait de nouveaux amis dans le monde entier, notamment les membres d'équipage qu'il surnomme affectueusement Super Mario. Sa seule vraie contrainte, c'est que voyager à plein temps, ça coûte très cher. Alors de temps en temps, Mario reprend son costume de financier et gère des portefeuilles d'investissement pour des clients privés. Mais toujours depuis sa cabine, il vit depuis plus de 20 ans sur des paquebots de croisière. C'est à lire dans l'édition du soir d'Ouest France.
Il y a pas mal de retraités qui vivent en fait qui font tout un tas de croisières. Parce qu'au final,
chaque année,
ça coûte plus ou moins l'équivalent l'équivalent de ce que coûte une maison de retraite. Hein, entre 3 000 et 4 000 euros par mois, et ben on peut vivre en fait sur un paquebot.
Ouais, tranquillement. Puis voir le monde.
Ouais, après, il faut aimer être enfermé dans un porte-container.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur un porte-container, là,
vous avez pas vu récemment un paquebot.
Avec un casino, quand même.
Ouais.
Merci beaucoup, Martin. Une petite devinette, les amis. Un petit qui suis-je ? Je suis une matière à la fois indispensable et controversée. On essaie tant bien que mal de se passer de moi, mais c'est très compliqué. Il faut dire que je suis pratique et bon marché. Je suis de toutes les formes, de toutes les couleurs, mais je rends vert les écolos parce que je ne suis pas biodégradable. Je suis
le plastique.
Ben oui.
Évidemment, le plastique. Bravo. Fantastique au XXe siècle, hérétique au XXIe. Il n'en reste pas moins omniprésent dans nos objets du quotidien. Tenez ce stylo ou encore cet ordinateur, nos vêtements, nos emballages, nos voitures sont bourrés de plastique. On en trouve partout et à toutes les échelles, même dans l'infiniment petit. Si bien qu'il est avéré désormais que des micro et nanoparticules de plastique se baladent dans l'air, dans l'eau, dans nos aliments. Et tenez-vous bien, dans notre sang. C'est ce que révèle pour la première fois une étude néerlandaise publiée la semaine dernière, étude que relaie cet article du Monde. Il n'y a pas que du plasma, des globules rouges et des plaquettes qui circulent dans nos veines, il y a aussi des microplastiques. Sur les 22 personnes en bonne santé ayant accepté de participer à l'expérience, 21 avaient dans leur sang des taux détectables d'au moins l'un des 5 polymères recherchés. Je vous épargne leur nom barbare, antilène et phtalate pour l'instant. Dans le détail, les donneurs présentaient un taux moyen d'1,6 microgramme de plastique par millilitre de sang. Ça paraît infime, dit comme ça. Mais si on extrapole ces résultats à l'ensemble du système circulatoire, alors ça voudrait dire qu'une personne pourrait avoir plusieurs milligrammes de plastique dans le sang. Des doses loin d'être négligeables, explique dans l'article le professeur de biochimie Xavier Coumoul, qui rappelle au passage que les microplastiques peuvent être associés à des perturbateurs endocriniens. Reste à savoir comment ces résidus sont arrivés là, comment du plastique peut se balader tranquillou dans nos veines et artères. Ce qui est certain, c'est que leur présence est le reflet d'une exposition multiple, que ce soit par l'air, par l'eau ou l'alimentation, mais aussi par des produits cosmétiques et d'hygiène. Il y a par exemple du polyéthylène dans certains dentifrices. Vous savez, ce sont ces microbilles, ces grains qui, soi-disant, enlèvent les taches sur les dents. On les trouve aussi dans les produits exfoliants. Attention aussi aux gloss pour les lèvres. Les paillettes utilisées pour rendre vos bouches encore plus pulpeuses sont là aussi du plastique, du polyéthylène téréphtalate, pour être précis, qui a toutes les chances de finir dans votre estomac à la fin de la journée. Car l'hypothèse la plus probable, c'est que ces microplastiques pénètrent nos organismes via les muqueuses digestives ou respiratoires.
Une question importante, quels sont les risques pour la santé, Julien ?
Alors, on ne sait pas vraiment à ce stade, vu qu'aucune étude n'a encore été menée à ce sujet, mais on peut affirmer sans trop s'avancer que ça ne doit pas être l'idéal d'avoir un système sanguin pollué de microplastiques, d'autant que, sur le papier, il est plausible qu'ils soient transportés jusqu'aux organes, et notamment le cœur. On subira peut-être à l'avenir des pontages, non pas à cause d'un excès de cholestérol dans les artères, mais d'une accumulation de plastique, des microplastiques détectés dans le sang humain, c'est à lire sur le site du Monde.
Merci beaucoup, Julien, et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
C'était le pressing.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et c'est le retour de l'info à 5h19, le journal permanent Alban Le Prince.
Une première depuis le début de la guerre en Ukraine, Kiev et Moscou ont eu un dialogue jugé constructif lors d'une nouvelle session de pourparlers en Turquie. La Russie s'engage à réduire les combats, notamment autour de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky salue des signes positifs, mais n'a pas l'intention de relâcher les efforts militaires. Les Occidentaux attendent de voir. Decathlon suspend son activité en Russie faute d'approvisionnement. Mais les deux autres enseignes du groupe Mulier, à savoir Leroy Merlin et Auchan, restent dans le pays. Condamnation ce matin du chef de l'ONU, Antonio Guterres, après les 3 attaques terroristes en Israël depuis le début de la semaine. Bilan total, 11 morts, dont au moins 5 hier près de Tel Aviv. Le président palestinien Mahmoud Abbas condamne également ces violences. La présidentielle est ce matin dans Le Parisien. Le président de la Fédération nationale des chasseurs annonce qu'il votera Macron. Son objectif, faire barrage à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qu'il juge trop proche des courants animalistes.
Europe 1. Allez, on part maintenant au plus près de chez vous, avec les initiatives en France, direction ce matin la Charente.
Bonjour Louis Falguerol.
Bonjour monsieur.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le directeur de Charente Habitat Jeune, association qui développe des solutions de logement pour les étudiants. Et vous venez en ce sens d'inaugurer une tiny house, une toute petite maison en bon français. Expliquez-nous.
Oui, alors on a inauguré en effet en début de mois une première tiny house, donc qui va nous permettre d'accueillir des jeunes en fait dans les zones les plus reculées du département de la Charente. L'idée pour nous, c'est de pouvoir proposer aux jeunes qui ont des difficultés de mobilité ou d'accès au logement de se rendre le plus proche possible de leur zone d'emploi ou de formation.
Parce que la solution souvent adaptée par les collectivités à l'heure actuelle, ce sont soit les résidences universitaires ou les foyers, mais ce n'est pas totalement adapté, c'est votre constat ?
Bah exactement, nous on est actuellement gestionnaire de 2 foyers jeunes travailleurs, donc un sur Angoulême et un sur Cognac, et on a aujourd'hui des taux d'occupation qui sont extrêmement importants, mais on se rend compte que dans les zones les plus reculées, on n'arrive pas à répondre à ces besoins-là. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'être un peu innovant et de proposer une solution alternative pour que ces jeunes puissent accéder au logement et vraiment surtout maintenir un emploi ou une formation.
Alors je précise pour nos auditeurs que cette première tiny house ressemble à une petite maisonnette que vous avez installée sur la commune de Tapona, je crois, à une demi-heure d'Angoulême. Quelle est sa surface au sol ?
Alors la surface au sol, c'est de 15 mètres carrés, plus une mezzanine. En gros, on est un peu plus de 16 mètres carrés habitable actuellement.
Ah oui, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment tiny quoi.
C'est vraiment tiny, c'est optimisé surtout. Hein. L'idée c'est de pouvoir mettre le maximum de surface disponible pour le jeune, donc mais elle est totalement équipée, donc avec salle de bain, des toilettes, il a une connexion internet, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très optimisé.
Et elle est principalement en bois et posée à même le sol, c'est ça ? Il n'y a pas de fondation ?
Alors, il n'y a pas de fondation. Le principe de la tiny house, c'est de pouvoir la déplacer facilement. Donc, c'est nous qui nous en chargeons. On les déplace facilement. On les met après sur des supports qui sont fixés à la remorque. Mais l'idée, c'est de pouvoir les déplacer rapidement. L'objectif pour nous, c'est que le jeune ne reste pas plus de 2 ans sur le terrain sur lequel on va l'installer.
C'est-à-dire que le futur locataire pourra bénéficier de cette maison. Elle viendra à lui. En fait, c'est la maison qui viendra à lui.
C'est exactement ça. L'idée, c'est de rentrer en lien avec les jeunes qui cherchent, mais aussi les employeurs ou les collectivités. Nous, c'est de leur proposer cette alternative en disant, nous, on vous met à disposition ce type de logement sur votre terrain, mais ça reste temporaire. On a un agrément que pour 15 tiny house sur l'ensemble du département. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins sur l'ensemble du territoire.
Et justement, le terrain, vous le louez ou il vous est prêté gracieusement ?
Alors là, pour le coup, le terrain nous est prêté gracieusement. Nous, on paye tout ce qui est lié aux charges d'énergie, donc l'eau, l'électricité, mais le terrain nous est fourni gratuitement.
Et combien coûte la construction de ces tiny houses ?
Alors aujourd'hui, on est à peu près à 47 000 euros par tiny house. Au début du projet, on était autour des 40-42 000 euros, mais avec le coût de la matière qui a vraiment évolué, on a pris un petit peu en termes de coût.
Et c'est une somme qui est prise en charge par les collectivités locales ?
Alors, pour le coup, nous, on a travaillé beaucoup avec la CAF qui nous a accompagnés sur ce premier projet. On a l'État aussi qui nous a beaucoup accompagnés. On est en lien avec les communautés de communes ainsi que le département pour nous accompagner sur le financement d'autres tiny house. Mais surtout, on a eu beaucoup d'aides de différentes fondations qui nous ont vraiment beaucoup aidés sur le financement de ce projet.
Et elle est d'ores et déjà habitée, cette première maisonnette ?
Elle est habitée depuis le 1er février par un jeune qui est étudiant ingénieur et qui est tombé amoureux du projet de la tiny house puisqu'il a envoyé toutes ses photos à sa famille qui habite au Brésil.
Alors qu'on soit bien clair, ce n'est pas pour autant un logement gratuit, mais c'est un logement dit accessible. De combien est le loyer ?
Alors nous, ce qu'on a obtenu, c'est qu'on a obtenu un agrément de la part de l'État qui valide le fait que ces tiny houses soient considérées comme une extension de nos foyers jeunes travailleurs actuels. Et on a signé une convention avec l'État, la CAF et le département pour que les jeunes puissent bénéficier aussi des APL sur ces tiny houses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un loyer qui est à 428 euros, mais évidemment, toutes charges comprises. Et en déduisant le montant des APL, le reste à charge est d'environ 100 euros pour le jeune.
Et quand vous dites toutes charges comprises, ça va même au-delà, hein, parce que c'est l'eau, l'électricité, Internet, et vous mettez même, je crois, un vélo électrique à disposition ?
Exactement. La communauté de communes du Grand Cognac qui nous a offert des vélos électriques pour ses premières tiny house. Et pour coup, on les met à disposition des jeunes qui n'ont pas de moyens de mobilité. Donc par exemple, ce jeune-là travaille à 5 km de son lieu d'implantation de la tiny house. Et donc pour coup, il peut se rendre facilement à son lieu de travail avec le vélo électrique.
Bon, et votre objectif, c'est évidemment de ne pas en rester là parce que la demande, j'imagine, est élevée. Vous comptez en fabriquer et en installer d'autres ?
Alors nous, l'objectif, c'est d'arriver à 15 tiny house, c'est l'agrément qu'on a obtenu par l'État. Donc on se donne 4-5 ans pour y arriver.
C'est une première en France, non ?
Alors c'est une première
connaissance.
En France sur... Non, c'est pas la première en France, c'est surtout la première en France sur le cadre légal. C'est-à-dire qu'on est les premiers en France à avoir obtenu les agréments nécessaires pour mettre ça facilement en place.
C'est en train de faire boule de neige, cette expérience. Vous êtes contacté de toutes parts, ça interpelle ?
Oui, ça interpelle beaucoup. La semaine dernière, on était par exemple invité par le Bordeaux Métropole pour une table ronde pour expliquer la mise en œuvre de ce projet Tiny House. On est sollicité par différentes communautés de communes. Et donc là, on risque, nous, de créer justement une prochaine réunion pour expliquer justement la mise en œuvre de ce projet-là.
Merci beaucoup, Louis Falguerolles, directeur de Charente Habitat Jeune, de nous avoir présenté cette solution pour les étudiants, les Tiny House. On vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil sur Europe 1 à suivre le journal de Christophe Lamar et cette alerte au gel qui inquiète notamment les vignerons. Et puis à la une également le conflit en Ukraine et le patrimoine historique menacé par les bombes russes.
Oui, c'est une course contre la montre qui s'est enclenchée depuis le début du conflit. On tente de protéger les monuments, les œuvres d'art avec les moyens du bord. Les tableaux sont décrochés des murs des musées. Les statues, vous les avez sans doute vues, sont ensevelies sous des sacs de sable. Les bâtiments sont marqués pour ne pas être pris pour cible. Dans un quart d'heure, nous serons avec le directeur des musées de la métropole Rouen-Normandie, Sylvain Amic. Il a lancé un forum culturel pour faire vivre la culture et le patrimoine ukrainien menacés.
Et puis comme tous les mercredis, votre rendez-vous cinéma.
Avec le nouveau Cédric Clapiche, l'histoire d'une ballerine blessée qui tente de se reconstruire à travers la danse contemporaine. Ça s'appelle Encore, voilà, en deux mots. À voir également Le Monde d'hier, un thriller politique avec une Léa Drucker en présidente de la République qui ne dispose que de quelques jours pour sauver la démocratie. Rendez-vous avec Laurie Choleva à 6h10.
Le retour d'Anissa Haddadi avec de bien mauvaises nouvelles puisque le parapluie est obligatoire aujourd'hui.
Alors mauvaise nouvelle pour nous, bonne nouvelle pour la Terre hein, puisque c'est vrai qu'on l'attendait. Cette pluie sera-t-elle suffisante? Je ne pense pas. La dégradation donc se poursuit. Aujourd'hui on a un temps très différent par rapport à hier sur le quart nord-ouest Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Ce matin nous avons des averses, temps plus sec cet après-midi. C'est vrai que le soleil revient par la Bretagne. D'ailleurs sur les Hauts-de-France le soleil sera de retour cet après-midi et assez radieux. En Nouvelle-Aquitaine, jusqu'aux Pyrénées, la matinée est très humide avec des averses dans la journée. Le temps sera plus sec en deuxième partie de journée grâce à la tramontane. En Provence, les averses sont moins fréquentes ce matin, mais il y a quand même encore de l'humidité. Et puis en fait, c'est entre l'Auvergne et le Grand Est qu'il va le plus pleuvoir aujourd'hui avec des averses qui deviendront même orageuses en fin de journée. Alors les températures très douces ce matin, 7 à Limoges et Blois, 9 à Paris et Béziers, 11 à La Rochelle, 15 à Toulon. Cet après-midi, ça commence à baisser avec 13 à Metz, 14 à Paris, 18 pour Ajaccio. Hier, on avait 19 degrés à Paris. Vous voyez, on perd 5 degrés à peu près partout.
Oui, on reperdra encore 5 à 10 degrés dans les jours suivants.
La pire journée, c'est jeudi, vendredi, où là, ça va vraiment baisser. Ouais.
Bon, ben, je ne sais pas si on vous remercie, mais à bientôt, Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, 5h30.
Europe 1.
L'actualité de ce mercredi, c'est l'inquiétude des vignerons du Bordelais. Le retour du gel après un épisode de grande douceur. Les viticulteurs ont trouvé la parade, une tour anti-gel pour protéger les cultures. Reportage dès le début de ce journal. Premier signe positif dans le conflit en Ukraine. Moscou salue les propositions claires de Kiev pour résoudre le conflit. Une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas exclue. Et puis la journée mondiale contre les troubles bipolaires. Plus d'un million de Français sont concernés.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Après la sécheresse, le froid. La France s'attend à un épisode de gel en fin de semaine. Changement d'ambiance radical après la douceur de ces derniers jours. Pour les arboriculteurs comme pour les vignerons, ce scénario rappelle celui d'avril l'an dernier qui avait ravagé les cultures. Dans le Bordelais, les viticulteurs se préparent et misent sur des tours anti-gel. Reportage à Léognan, Stéphane Place.
On est à 60 mètres de la tour. Ça buffle, hein? Non, mais tu vois que ça chasse l'air froid qui est posé par terre.
11 mètres de haut et au sommet de ces tours anti-gel que les techniciens sont en train de tester dans ces rangs de vignes, une énorme pale, mode d'emploi avec Rémi Audange, le directeur adjoint du domaine de Chevalier, grand cru classé de grave.
C'est les machines avant. En activant cet hélicoptère fixe, on va tirer de l'air plus chaud en haut, on va pousser l'air froid en bas, on va mélanger tout cet air-là et on va faire une bulle d'air, peut-être à 0 degré ou à 0,5 degré, qui va être entretenue par le fonctionnement de la tour.
Et depuis 2017, trois années ont été marquées par des épisodes de gel qui ont affecté le vignoble bordelais avec des pertes de récoltes, des pieds de vigne aussi devenant plus vulnérables face aux attaques de mildiou. Hugo Bernard, propriétaire et responsable de production du domaine de Chevalier.
On investit cette année 3 tours antigel, 3 tours antigel l'année dernière, 2 tours antigel l'année précédente. 50, 60, 70 000 euros pour une tour antigel. Si on gèle tous les 10 ans, c'est pas rentable. Si on gèle deux fois tous les 5 ans, on se pose plus la question.
Autre moyen pour lutter contre le gel, les bougies. Mais ici, par exemple, allumer ces feux suppose de mobiliser une trentaine de personnes toute la nuit dans les 3 propriétés de ce groupe familial.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine.
La campagne pour l'élection présidentielle. À droite, Valérie Pécresse tente le tout pour le tout.
Et retour sur le terrain après une période d'isolement liée au Covid. La candidate Les Républicains veut faire mentir les sondages qui la donnent absente du second tour. Déplacement dans les Hauts-de-France et visite surprise d'une heure à Roubaix. Ville confrontée à la montée du communautarisme, Valérie Pécresse a défendu l'intransigeance républicaine face à l'insécurité et l'islamisme. Reportage Alexandre Chauveau.
Certains membres de sa campagne lui reprochaient de ne pas assez prendre de risques. Alors Valérie Pécresse est allée au contact, interpellée dès son arrivée par des habitants.
On en a marre. Il y a des dealers partout.
Vous voyez le sens unique ?
Oui.
Il y a des voitures qui passent.
Hein ? On dirait que c'est des rallyes.
Ça passe comme
des
ça,
sauvages.
Ça passe comme ça. Ah ouais, des vrais sauvages.
La candidate qui propose un plan d'urgence pour la justice y voit la preuve de la pertinence de son programme.
Le problème, c'est qu'effectivement, ceux qui pourrissent la vie du quartier, ils sont sûrement poursuivis par les policiers, mais il ne se passe rien.
Il se passe rien.
Valérie Pécresse déambule ensuite rue de Lannoy, où se tiennent de nombreux commerces communautaires. Et alors qu'elle s'approche d'une librairie accusée de vendre des livres prônant un islam radical, celle-ci baisse le rideau. La candidate promet alors une lutte sans merci contre l'islamisme.
Je veux donner au maire et au préfet le pouvoir de fermer administrativement des commerces dans lesquels se vendent des écrits qui sont contraires à la République.
Valérie Pécresse repart au bout d'une heure après avoir multiplié les échanges avec les riverains. Concurrencée sur sa droite sur les thèmes régaliens, la candidate n'entend pour autant rien céder à ses adversaires. Roubaix, Alexandre Chauveau, Europe 1.
Et après Valérie Pécresse hier, Nicolas Dupont-Aignan est attendu aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Trois autres candidats seront également sur le terrain. Yannick Jadot dans l'Oise, Anne Hidalgo dans le Pas-de-Calais, Philippe Poutou a prévu un meeting à Rennes.
C'est peut-être un tournant dans le conflit en Ukraine. Le président Zelensky évoque des signaux positifs après la séance de pourparlers hier à Istanbul.
Trois heures de discussion et un premier pas salué par Moscou. Qui salue les propositions claires de Kiev. Le gouvernement ukrainien accepte de s'engager sur la voie de la neutralité, statut que garantiraient les grandes puissances comme la Chine, les États-Unis, la France ou encore le Royaume-Uni. La question de la Crimée et du Donbass, passée sous contrôle russe, est renvoyée à d'autres négociations.
Moscou n'exclut pas un sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, mais les capitales occidentales restent prudentes.
On jugera sur pièce, dit le président américain Joe Biden. Sur le terrain, l'engagement de Moscou à desserrer l'étau autour de Kiev laisse Washington dubitatif. Un repositionnement, mais pas un retrait pour le porte-parole du ministère de la Défense. À Mariupol, les opérations d'évacuation de civils attendront. L'entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'a pas permis de trouver un terrain d'entente.
Les Occidentaux déterminés à ne pas relâcher la pression, pas de levée de sanctions dans l'immédiat. Les oligarques dont les comptes ont été gelés, la solution passe pour eux à Dubaï.
L'un des refuges est peut-être le nouvel Eldorado pour les fortunes russes. Depuis le début de la guerre, les oligarques tentent de contourner les sanctions économiques. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir les Émirats Arabes Unis. Élise Dangean.
À Dubaï, l'argent n'a pas d'odeur et ça, les Russes l'ont bien compris. Ils investissaient déjà dans l'immobilier de luxe dubaïote, mais désormais, ils cherchent à s'y installer avec dans leurs bagages, leurs avoirs, leurs sociétés et leur famille, des opérations d'ampleur qu'ils confient à des entreprises spécialisées comme SAM Relocation Group, dont les juristes comme Audrey Delettre croulent sous les demandes.
Trouver des bureaux, trouver des employés si c'est nécessaire. Et puis à côté de ça, évidemment, toute la relocalisation des familles des investisseurs, mais aussi des employés susceptibles d'accompagner le processus de relocalisation.
Et pour ce qui est du logement, les fortunes russes mettent le paquet car la durée de leur visa dépend du montant des propriétés achetées, explique Audrey Charpenel qui tient l'agence immobilière Mac Properties à Dubaï.
On va avoir des visas résidence gold qui vont atteindre à peu près 15 millions de dirhams minimum d'achat. Qui fait 4 millions, 5 millions d'euros. Ça vous permet de rester 10 ans sur Dubaï sans renouveler.
Alors pour l'heure, ce sont principalement des Russes installés en Europe qui émigrent à Dubaï. Ceux qui cherchent à fuir le pays de Vladimir Poutine sont encore peu nombreux.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. En Israël, deux attaques ont fait au moins 5 morts près de Tel Aviv. Un homme a ouvert le feu alors qu'il circulait en voiture avant d'être abattu par les policiers israéliens. Pas d'informations sur son identité, mais selon des médias locaux, il pourrait s'agir d'un Palestinien. Pas de revendication. Pour l'instant.
La crise sanitaire, l'épidémie progresse toujours en France, mais les hôpitaux tiennent le choc.
Plus de 210 000 nouveaux cas en 24 heures. Si les admissions à l'hôpital sont en hausse, les entrées dans un service de soins critiques sont effectivement toujours en baisse.
5h37, ce mercredi marque la journée mondiale de la lutte contre les troubles bipolaires, une date qui n'est pas choisie par hasard.
Et un grand peintre en souffrait, il s'est suicidé faute d'avoir été correctement diagnostiqué. Vincent Van Gogh est né le 30 mars 1853 et comme lui, plus d'1 million de Français sont touchés par cette maladie aujourd'hui. Marie Giquel.
Deux toiles, deux ambiances. La moisson d'abord, un tableau lumineux représentant un champ ensoleillé et l'autoportrait bleu où Vincent Van Gogh affiche un regard anxieux. Ces peintures illustrent bien cette alternance entre euphorie et dépression, le symptôme du trouble bipolaire. François-Bernard Michel, professeur émérite de la faculté de médecine de Montpellier et président honoraire de l'Académie des Beaux-Arts.
Il n'était pas fou du tout, il était bipolaire, la tendance dépressive. Ce dont il avait besoin, c'était, comme tous ces bipolaires, d'une écoute, d'une compréhension, d'une consolation même. La peinture lui servait à surmonter cet état de dépression.
Toute sa vie, Vincent Van Gogh a cherché un soutien, notamment auprès du docteur Gachet, qui apparaît dans certaines de ses toiles.
Il aurait suffi que le docteur Gachet soit un vrai médecin thérapeute, sans disposer de médicaments spécifiques, et il s'en serait sorti.
Les petites émotions sont les capitaines de nos vies, écrivait Vincent Van Gogh à son frère Théo. Sage réflexion pour cet artiste incompris, dont les œuvres enchaînent les records de vente aujourd'hui.
Marie Jiquel, le football, soirée parfaite pour les Bleus hier soir. Victoire 5-0 de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud, doublé de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud, son 48e en bleu. Il se rapproche un peu plus du record de Thierry Henry.
Et il en manque 3, c'est ça, pour les Galets,
hein,
51 Thierry Henry. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal Les Courses. Les pronostics du Quintet, Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Salon de Provence pour ce Quintet, la deuxième étape du Grand National du Trot, le Tour de France des trotteurs. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection le numéro 14, Évariste Dubourg, de loin le meilleur du lot et qui a été préparé avec soin depuis plusieurs semaines par son entraîneur Jean-Marie Roubaud en vue de cet objectif. On lui opposera les numéros 16, Django du Bocage, excellent second de la première étape de ce GNT le 9 mars sur l'hippodrome d'Amiens, 12 Divine Monceau, 6e ce jour-là sans avoir eu le meilleur des parcours, et 13 Eden Basque, irrésistible en dernier lieu à Cagnes-sur-Mer, mais qui a déjà bien réussi sur des tracés corde à droite, similaires à celui de l'hippodrome de Salon de Provence. Enfin les numéros 15, Crack Monnaie, 11 Campione Mio, 7 Fragonardello et 9 Festif Charmant compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 16, 12, 13, 15, 11, 7 et 9.
14, 16, 12, 13, 15, 11, 7, 9. Les pronostics à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et c'est la réouverture aujourd'hui pour les 7 prochains mois du parc Vulcania, parc à thème dédié au volcan dans le Puy-de-Dôme, qui a ouvert il y a tout juste 20 ans. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Alors l'idée, Laure, c'est de créer un lieu culturel et scientifique dédié au volcanisme, et tout ça a commencé en 1990.
Oui, l'idée est venue de deux volcanologues de renommée mondiale, les époux Kraft, qui voulaient créer un centre touristique au milieu du parc des volcans dans le Puy-de-Dôme. Mais Valéry Giscard d'Estaing, alors président du conseil régional d'Auvergne, s'oppose au projet. En 1991, les deux volcanologues meurent près d'un volcan au Japon, emporté par une nuée ardente. Et Valéry Giscard d'Estaing reprend le projet. Mais où implanter ce centre? Le sujet fait débat en 1996, d'abord sur le plan écologique.
La situation de cette réalisation en plein parc des volcans va entraîner une bétonisation d'une grande partie de la chaîne des puits.
Et sur Europe 1, Valéry Giscard d'Estaing leur répond sur le terrain économique.
Notre dépense sera inférieure au tiers de la construction du Futuroscope de Poitiers. Ça sera le plus grand événement en France, dans la France d'un an 2000.
Et il ajoute qu'il y aura des retombées économiques positives du point de vue du tourisme dans les départements alentours.
Mais le coût financier de ce centre Vulcania est soulevé à nouveau quelques mois plus tard.
Oui, estimé à 45 millions d'euros, le centre coûtera finalement 110 millions d'euros. Et en 1997, le coût nettement sous-estimé fait même fuir les entreprises, comme le raconte le journaliste d'Europe 1, Nicolas Fourou.
Aucune entreprise
l'entreprise n'a répondu favorablement à l'appel d'offres pour la réalisation du gros œuvre et de l'étanchéité de Vulcania. Et pour cause, les candidats estiment ces travaux à 130 millions au moins, soit le double des prévisions du conseil régional. Voilà qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que Valéry Giscard d'Estaing a largement sous-estimé le coût de Vulcania.
Le projet accumule les retards et on frôle la catastrophe au mois d'août 2000, Laure.
Oui, une dalle de béton de 170 mètres carrés s'effondre sur une salle de visite. L'accident révèle que le béton confectionné spécialement n'était pas assez solide. Sur place, le journaliste Guillaume Porteux raconte la scène.
Sur les restes du bâtiment, les pompiers du Puy-de-Dôme progressent mètre par mètre. Toute la nuit, ils ont fouillé les décombres, mais l'opération est délicate. Le bâtiment n'est en effet plus qu'un amas de béton et de terre. L'accident a été spectaculaire. La dalle qui s'est effondrée s'est littéralement ouverte sous le poids d'un engin de chantier, un tractopelle qui a transpercé le plafond de la future salle d'exposition de Vulcania, formant un trou béant de 150 mètres carrés.
Il n'y aura pas de victimes lors de cet accident et un an et demi plus tard, en janvier 2002, le centre Vulcania est finalement inauguré et il a reçu depuis plus de 6 millions de visiteurs.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, le patrimoine ukrainien en danger.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 et nous sommes le mercredi 30 mars, 35e de jour de guerre en Ukraine. Un conflit qui, comme les précédents au Mali, en Irak ou en Syrie, fait craindre la destruction de monuments et de collections d'art inestimables. On en parle, Omblin, avec le directeur des musées de la métropole Rouen-Normandie.
Bonjour Sylvain Amic.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. L'Ukraine compte 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, à Lviv et Kiev notamment, également de nombreux bâtiments et monuments dans tout le pays, tous menacés par les bombes. Dans l'est de l'Ukraine, Kharkiv compte parmi les villes les plus lourdement touchées. À Mariupol, on garde tous en tête les images du bombardement du théâtre. Quelles nouvelles avez-vous aujourd'hui des édifices classés, des musées, des bâtiments, des œuvres? Dans quel état sont-ils? Est-ce que vous avez une idée?
Eh bien, on n'a pas une idée très précise de la situation. Ce que l'on sait, c'est que nos collègues des musées ukrainiens ont organisé le transfert et la protection des œuvres. On a vu aussi toutes ces images de protection des monuments publics avec des sacs de sable. Donc, il y a une véritable mobilisation, comme vous le dites, avec les moyens du bord de nos collègues qui ont bien compris qu'il y avait là aussi un enjeu de sauvetage, non seulement des vies humaines, mais des biens culturels qui sont le ciment de leur nation.
Quelles sont-elles ces richesses culturelles du pays de l'Ukraine? Il y en a beaucoup, mais est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes pour qu'on les ait bien en tête?
C'est d'abord un pays qui a un patrimoine bâti considérable, que l'on pense par exemple à l'église Sainte-Sophie qui est à Kiev, qui est un des grands modèles des églises orthodoxes de la Russie et de toute la sphère russe. Mais il y a aussi des collections d'art très importantes qui sont conservées dans les musées ukrainiens, avec non seulement des artistes originaires d'Ukraine, mais aussi originaires d'autres pays, dont des pays d'Europe de l'Ouest. Et puis, il y a aussi une scène d'art contemporain très active en Ukraine. Donc, il y a un ensemble, voyez, patrimonial qui va du monumental au chef-d'œuvre de la peinture, en passant par aussi d'autres pratiques artistiques, comme la photographie, par exemple.
Protéger toutes ces œuvres avec les moyens du bord, on le disait, avec des sacs de sable. Les bâtiments sont également marqués pour éviter qu'ils ne soient ciblés.
Oui, dans ces cas-là, effectivement, on sait qu'il y a des dégâts collatéraux importants quand il n'y a pas une volonté délibérée de détruire les lieux culturels. Donc, les collections qui peuvent être déménagées sont mises en lieu sûr. C'est ce qu'on a connu en France, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il se trouve que nos collègues ont fait appel au musée de France et d'Europe pour un soutien. Et il y a eu en France une collecte auprès de musées de région. Je pense surtout, par exemple, dans les pays de la Loire, où on s'est beaucoup mobilisé. Et un premier camion qui a été adressé par l'entreprise FENU à l'Ukraine a permis d'apporter 13 mètres cubes, je crois, de mémoire, de matériel de protection pour le patrimoine. Mais c'est une chaîne qui est en train de se consolider.
Il y a une aide d'urgence qui a été débloquée aussi. Il y a une aide financière.
Oui, oui, il y a des aides d'urgence qui ont été débloquées. Il y a un organisme français qui s'appelle l'ALIF qui vient en aide au patrimoine dans les zones en guerre. Et donc là, il y a des moyens qui sont mis à disposition. Ensuite, il y a toute une chaîne de responsabilités qu'il faut activer pour être sur une échelle de proximité et faire en sorte que cette aide, elle arrive au plus près. Donc là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés et on a vraiment l'impression d'une grande solidarité qui permet d'être vraiment en lien avec les personnes sur le terrain.
La LIF, c'est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Il existe aussi ce bouclier bleu, ce symbole bleu et blanc pour signaler qu'en cas de conflit armé, les monuments sont protégés par la Convention de la Haye de 1954, texte ratifié par la Russie. Il va être respecté, ce texte, selon vous ?
On serait bien en peine de dire que les dispositions vont être respectées. On voit que d'autres dispositions qui sont normalement coercitives et auxquelles la Russie, comme d'autres belligérants, ont pu souscrire, ne sont pas respectées à la lettre. Il y a eu des alertes dans le domaine humanitaire très sérieuses et très documentées. Donc on peut tout craindre. Et de toute façon, encore une fois, les dégâts collatéraux sont toujours très importants dans ces moments-là. C'est pour ça que de notre avis, seulement il y a une protection matérielle du patrimoine à faire, mais il y a aussi le faire exister dans l'actualité, dans les mentalités, donc avec des radios comme vous qui en parlent, mais aussi que le public en Occident connaisse ce patrimoine, parce qu'en fait on le confond souvent dans une grande aire géographique effectivement sous l'ombre de la Russie, mais il y a beaucoup à dire et beaucoup à travailler pour comprendre l'originalité de ce patrimoine ukrainien, sa valeur exemplaire et la nécessité de le sauvegarder.
Il est primordial de parler évidemment de l'urgence humanitaire. Sylvain Amic, détruire un peuple, ça passe aussi par l'anéantissement de son histoire culturelle. Vous venez de l'évoquer, hein, cette histoire ukrainienne, l'urgence est aussi patrimoniale. On se rappelle de cet incendie qui a ravagé un musée et détruit les œuvres de l'artiste Maria Primachenko au début du mois. La sauvegarde des objets d'art, des édifices, c'est veiller aussi sur cette nation ukrainienne pour qu'elle continue d'exister.
Absolument, on sait que la culture, c'est le ciment d'une nation, c'est comme ça qu'elle se distingue, c'est comme ça qu'elle se retrouve, qu'elle s'identifie, donc il est important de la faire exister. Or, pour l'instant, on ne peut pas dire que cette culture ukrainienne, elle existe en France ou en Occident, où on n'a pas un grand accès aux sources. C'est pour ça que l'initiative qu'on a prise avec l'Institut national d'histoire de l'art, c'est de rendre un accès plus facile au patrimoine ukrainien à travers des conférences de langue française, car il importe de faire exister ce patrimoine et de faire exister aussi par la voix de ceux qui l'ont étudié, par des spécialistes, pas par des gens qui en ont une connaissance biaisée. Donc pour nous, il est important de faire exister une voix sûre, une voix autorisée, qui fasse émerger l'architecture, la peinture, l'art contemporain, l'art moderne. C'est important de les faire exister pour qu'on sache aussi que derrière les vies, derrière les infrastructures qui sont détruites et l'économie qui est détruite, il y a aussi ce patrimoine qui, lui, est normalement devrait être éternel, puisque c'est un apport considérable au patrimoine mondial de l'humanité.
Merci beaucoup, Sylvain Amic, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur des musées de la métropole Rouen Normandie. Merci encore et bonne journée.
Merci.
Et la prochaine conférence se tiendra au musée des Beaux-Arts de Rouen tout à l'heure à partir de 14h30 et elle portera sur la reconstruction de l'architecture moderne à Kiev sous l'époque stalinienne.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10, le journal permanent, Alban Le Prince.
Volodymyr Zelensky évoque des signaux positifs après une nouvelle session de pourparlers en Turquie entre l'Ukraine et la Russie. Moscou qui s'engage notamment à réduire les combats autour de Kiev, mais l'Occident assure vouloir juger le Kremlin sur ses actes. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus hier pendant une heure, notamment sur la situation à Mariupol. Selon l'Elysée, les conditions ne sont pas réunies pour mener une opération humanitaire. L'ancien secrétaire d'État de François Hollande, Jean-Vincent Placé, mis en examen pour agression et harcèlement sexuel hier. Présenté à un juge d'instruction, il est notamment placé sous contrôle judiciaire. Et puis du foot hier avec un spectacle 5-0 pour France-Afrique du Sud en rencontre amicale avec notamment un doublé de Kylian Mbappé.
L'actualité culturelle à présent et le mercredi, on parle cinéma.
Avec Laurie Cheleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Et au programme aujourd'hui, la renaissance d'une ballerine.
Oui, avec encore le nouveau film de Cédric Lapiche, véritable déclaration d'amour à la danse. Et ça faisait longtemps d'ailleurs que Cédric Lapiche voulait réaliser un film sur la danse. Alors encore, c'est l'histoire effectivement d'une renaissance, d'une reconstruction, celle d'Élise, danseuse étoile blessée, qui va devoir faire un trait sur la danse classique et trouver une façon de redonner un sens à sa vie.
Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite.
Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse.
On est une compagnie de danse contemporaine.
Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie.
Alors je peux vous dire que le film est de toute beauté. Cédric Lapiche, dès la scène d'ouverture, nous plonge au cœur de l'acte final d'un opéra et nous donne envie de danser. C'est vraiment un film entraînant, solaire, contrairement à d'autres films sur la danse classique comme Black Swan ou encore Les Chaussons Rouges. Cédric Lapiche signe une fiction où la notion de plaisir et de lâcher prise, de liberté aussi, est au cœur de tout. Et franchement, ça fait du bien. Et puis surtout, ce film marque les débuts au cinéma de Marion Barbeau, danseuse à l'Opéra de Paris, complètement fascinante.
En fait, on ne peut pas demander à des acteurs de jouer des grands sportifs. Donc là, pour la danse, c'est encore pire, je dirais, parce que, voilà, Marion Barbeau, elle a 30 ans, elle est première danseuse à l'Opéra de Paris. Moi, je trouve que c'est presque la définition d'un grand acteur ou une grande actrice. C'est le mélange d'une très grande force avec une très grande fragilité. Et Marion, elle a ça à la fois dans son mélange entre un brio corporel et une façon de danser qui est folle, et quelque chose qui a l'air d'être fragile et qui ne l'est pas tant que ça.
Et c'est une vraie belle trouvaille signée Cédric Lapiche. À ses côtés, Muriel Robin qui joue la femme qui tient une résidence pour artistes, qui répare les âmes blessées. Et puis deux habitués de l'univers de Clapiche, Pio Marmaille ou encore François Civil, qui sont tous les deux extrêmement drôles.
Dans un autre registre, Léa Drucker en présidente de la République.
Oui, dans Un monde d'hier, le nouveau long-métrage de Diastème, Léa Drucker incarne une présidente de la République sur le départ, ayant refusé de se représenter. Mais un scandale venant de l'étranger va éclabousser son successeur désigné et sans doute donner la victoire au candidat d'extrême droite. Son personnage aura alors 3 jours pour peut-être changer le cours de l'histoire et sauver la démocratie.
Il faut que Gaucher renonce, il faut que cette élection n'ait pas lieu.
Tu aurais dû te représenter, Elisabeth, je te l'ai dit 1000 fois, 1000 fois, c'est ta faute, ton orgueil.
Alors je le dis solennellement. Monsieur Gaucher et Madame de Rincy ont aujourd'hui du sang sur les mains.
C'est une internationale fasciste, Elisabeth, qui est en train de se mettre en branle. La Russie, la Turquie, le Brésil, l'Amérique. Si Willem est élu, c'est lui qui en prendra la tête. Si tu ne fais rien, il ne restera rien de toi. Rien. Ton nom, ce sera comme une tache dans les livres d'histoire. Tu seras celle qui n'a rien fait.
Le film est très réaliste, avec de fortes résonances avec le contexte politique actuel. Et en même temps, c'est construit comme un thriller, donc c'est véritablement captivant. Léa Drucker excelle aux côtés de Denis Podalydès, son secrétaire général, ou encore son premier ministre, Benjamin Biolay. Elle incarne une présidente tout en contradiction, avec un mélange de force, de doute. Elle est vraiment très émouvante.
Le monde d'hier avec Léa Drucker et encore de Cédric Lapiche, deux films à voir au cinéma dès aujourd'hui. Merci beaucoup Laurie Cholevaille, on vous retrouve samedi pour votre émission Clap sur Europe 1 entre 14h et 15h.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
On fera la météo dans une demi-heure parce qu'elle s'est déjà invitée.
Dans 2 minutes, la météo avec Anissa Haddadi et bien sûr, évidemment, 5h57, le journal et un coup de frein.
Oui, pour les automobilistes lyonnais qui depuis ce matin doivent rouler à 30 km/h au lieu de 50 dans les rues de la capitale des Gaules. C'est déjà le cas à Paris depuis août dernier et d'autres villes vont suivre. D'où cette question, est-ce que ça marche d'abaisser la vitesse? Est-ce que ça fait baisser la pollution tant atmosphérique que sonore? Question que l'on va poser à un expert en mobilité, Franck Cazenave, très critique, notamment à l'égard des ZFE. Vous savez, ce sont les zones à faible émission qui fleurissent un peu partout et dont l'objectif d'ici quelques années est d'interdire la circulation des véhicules critères 3, 4 et 5 dans les centres urbains. Problème, ça concerne tout de même la moitié du parc automobile français. On en parle dans une dizaine de minutes. Et puis juste après, on bline votre partition.
L'un des disques les plus importants des Red Hot Chili Peppers. L'album Californication, symbole de la renaissance du groupe. Rendez-vous dans 20 minutes.
Le retour d'Anissa Haddadi et donc cette question, quelle météo ce matin à Clermont, comment vous dites ?
À Clermont ? Alors, c'est un peu plus accent stéphanois, mais oui. C'est un mix des deux, hein, Clermont. Je les embrasse, j'ai passé toute ma vie au pied des volcans. Aujourd'hui,
on embrasse papa Haddadi.
Bien sûr. Et ça, il est en train de préparer la salle, là. Alors, le temps est maussade à Clermont et partout en France. Au moins, c'est ça. On a des nuages sur toutes les régions. Des nuages souvent porteurs d'averses. D'ailleurs, c'est à Clermont, entre autres, qu'il y aura le plus fort de la perturbation, puisque c'est entre les Pyrénées et le Grand Est qui va le plus pleuvoir en passant par l'Auvergne. Partout ailleurs, des averses qui vont rythmer la journée. Petite bonne nouvelle du jour, c'est le retour du soleil sur les Hauts-de-France et sur la Bretagne cet après-midi. Les orages éclatent aussi dans le Grand Est en fin de journée. Alors il fait très doux ce matin, 5 à Charleville-Mézières, 9 à Paris, 11 à Nice et cet après-midi nous aurons 11 à 18 degrés, ça baisse un peu.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison, nous sommes le mercredi 30 mars. Il est 6h. Et à la une de ce mercredi, cette question, sommes-nous à un tournant de la guerre? Après des pourparlers entre Moscou et Kiev, un accord doit être présenté à Vladimir Poutine. En attendant, les bombardements continuent comme l'exode des réfugiés à Marseille. Ils sont accueillis sur un ferry transformé en hôtel. Nous y serons dès le début de ce journal. Les candidats à l'élection présidentielle face aux agriculteurs, ils sont invités au congrès de la FNSEA, un secteur confronté à une épidémie de grippe aviaire qui se propage cette année jusque dans les Pays de la Loire. Et puis le célèbre personnage de BD Gaston Lagaffe n'a plus le sourire. La fille du dessinateur Franquin a saisi la justice pour empêcher la parution d'un nouvel album déjà annoncé par l'éditeur.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal à 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a connu un tel afflux de réfugiés. Ils seront bientôt 4 millions à avoir quitté l'Ukraine après 5 semaines de guerre. Des femmes et des enfants surtout. Plus de 5200 écoliers ukrainiens sont déjà scolarisés en France. Et c'est d'ailleurs à Marseille que le plus grand centre d'accueil vient d'ouvrir ses portes. Un ferry de la compagnie Corsica Linea, transformé en hôtel flottant XXL grâce à ses 500 cabines. Embarquement immédiat avec le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
Une course contre la montre pour les équipes du commandant Adam qui ont dû remettre en état un ferry endormi depuis 2 ans.
Ça a été un gros défi technique. 10 jours pour remettre tout en service, contrôler tous les systèmes de climatisation, remettre en service l'eau chaude.
Les tout premiers réfugiés sont arrivés discrètement hier après-midi et ont pu prendre place dans des cabines comme celle-ci.
Alors ça c'est une cabine pour une famille. Entrée. 4 places avec un lit parental, douche et WC. Là on est sur 18 mètres carrés à peu près.
70 personnes s'occupent de la logistique à bord, nous détaille le directeur de la Corsica Linea, Pierre-Antoine Villanova, avec les cuisines, la crèche et puis la vieille salle de cinéma qui va reprendre vie.
Oui, le cinéma du navire n'avait pas été exploité depuis plus de 20 ans et il va ouvrir d'abord pour que les enfants puissent passer des journées les plus agréables possibles.
Les panneaux d'affichage sont traduits en ukrainien, mais le dispositif va bien au-delà de l'hôtel flottant, comme le nomme le préfet de région, Christophe Mirman.
Un accompagnement social et puis également aussi d'accès à l'emploi au travers des offres qui seront proposées, qui pourront ainsi permettre un parcours d'intégration.
Et jusqu'à 1600 personnes, principalement des femmes et des enfants, pourront être hébergées ici pendant 2 mois. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et la France espérait aussi pouvoir organiser l'évacuation des 160 000 civils bloqués à Mariupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine. Les conditions ne sont pas réunies à ce stade, a estimé l'Elysée hier, après une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.
La présidence russe qui s'est engagée à réduire radicalement son activité militaire en Ukraine, notamment autour de Kiev.
Un repositionnement, oui, mais pas de retrait, estime la Maison Blanche, qui anticipe en revanche une nouvelle offensive de la Russie. La prudence des Occidentaux aussi après les pourparlers entre Moscou et Kiev hier en Turquie. L'esquisse d'un accord doit être présentée à Vladimir Poutine pour acter entre autres la neutralité de l'Ukraine.
Sur le front, en revanche, aucun cessez-le-feu. 12 morts à Mykolaïv après une frappe russe sur un bâtiment administratif.
La fin de la guerre, seule condition pour lever les sanctions contre la Russie selon Kiev. En France, cette offensive bouscule d'ailleurs le secteur du BTP face à la flambée des prix de l'énergie, des matières premières comme l'alumine, produit à 80% en Russie. C'est donc un appel à l'aide que lance le BTP, Maud Descamps.
Oui, il suffit de regarder l'évolution des prix pour comprendre l'inquiétude. Plus 50% pour l'acier, plus 25% pour les tuiles, le carrelage ou les faïences, des matériaux très énergivores. Et puis il y a la menace des pénuries, il va falloir trouver de l'alumine ailleurs qu'en Russie. Les fournisseurs ont donc drastiquement raccourci les délais des devis, observe Jonathan, architecte à Paris.
Quand un fournisseur de métal garantissait entre 1 et 3 mois, bah là il garantit même pas la semaine. Quand nous, architectes, on est en train d'estimer le coût des travaux, ça pose problème parce que l'appel d'offres qui a lieu 4 ou 5 mois plus tard, on n'est plus du tout dans les clous.
Le secteur craint un coup d'arrêt sur les demandes de chantier. Olivier Salleron est le président de la Fédération française du bâtiment.
Peut-être que les particuliers, les investisseurs vont attendre un petit peu en se disant, bah écoutez, ce qui valait 100 000 hier, aujourd'hui en vaut 115, je ne peux pas le financer. Donc je repousse mon investissement.
Si les chantiers devaient être mis à l'arrêt, alors la filière demanderait avoir recours au chômage partiel pour éviter, dit-on, à certains de mettre la clé sous la porte.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Au moins 5 morts dans une fusillade près de Tel Aviv en Israël hier soir. Un homme en voiture a ouvert le feu sur des passants. C'est le 3e attentat en une semaine condamné cette nuit par le président palestinien Mahmoud Abbas.
6h passées de 4 minutes sur Europe 1. Il votera pour Emmanuel Macron dès le premier tour.
Le soutien du président de la Fédération des chasseurs ce matin dans le Parisien. Willy Schrein qui invite les chasseurs à faire attention à deux ennemis, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en deuxième et troisième position.
Les candidats qui avaient invité au congrès, qui étaient invités au congrès national des chasseurs ce mercredi, c'est face aux agriculteurs qu'ils devront défendre leur programme.
Une invitation de la FNSEA, principal syndicat agricole, pour parler retraite, rémunération et peut-être aussi grippe aviaire, puisque cette année, une souche très virulente décime les élevages du sud-ouest jusqu'au Pays de la Loire. Notre correspondant Charles Guyard a rencontré ces éleveurs pour Europe 1.
Je t'appelle pour savoir un petit peu comment ça va dans l'élevage.
Depuis deux semaines, Patrick Prin passe ses journées au téléphone.
Comment ça va le moral ?
En charge de l'agriculture à Pornic, l'élu tente coûte que coûte de maintenir un lien avec la dizaine d'éleveurs de volailles de sa commune, dans laquelle la grippe aviaire a déjà fait bien des dégâts.
C'est vraiment la gestion du chaos. J'en ai que j'ai besoin de voir, parce qu'ils ne me répondent pas. J'ai quelques craintes. Certains me disent, ça y est, c'est fini, je pense à ma reconversion. D'autres, j'ai encore des animaux, donc je croise les doigts tous les jours.
Parmi ces éleveurs paniqués, il y a Anicia Marchand. Encore épargnée, c'est avec la boule au ventre que chaque jour, elle quitte sa maison pour retrouver ses 700 volailles strictement confinées et à qui il reste encore deux semaines de croissance.
Donc on ouvre la porte du bâtiment et tous les matins c'est savoir s'il y a des morts, s'il y a des morts, combien on en trouve et essayer de les emmener jusqu'au bout. Chaque jour de gagner, c'est déjà ça.
Pour près de la moitié des 1500 éleveurs des Pays de la Loire, c'est déjà trop tard, ils ont dû abattre leurs animaux. Christophe Labour, le président régional de la FNSEA section volailles.
Sur l'ensemble de la région, on va dépasser probablement les 20 millions d'animaux, c'est énorme. Moi, il y a 30 ans que je suis agriculteur, j'ai jamais connu ça, c'est pas fini.
De fait, c'est maintenant la Bretagne qui voit déferler à vitesse grand V le H5N1, une souche très virulente de la grippe aviaire qui, depuis ce week-end, a déjà décimé des élevages dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine. Pornic, Charles Guyard, Europe 1.
C'est un personnage qui a sûrement sa place sur l'étagère de votre salon, peut-être dans la bibliothèque de vos enfants. Gaston Lagaffe devrait être de retour en octobre avec un 22e album. C'est l'éditeur qui l'annonce, sauf que la fille du dessinateur Franquin s'y oppose et elle a même saisi la justice, le récit de Nicolas Caro.
Le retour de Lagaffe, c'est le titre du nouvel album des aventures de Gaston annoncé par les éditions Dupuis le 17 mars dernier. L'éditeur a confié la nouvelle vie du feignant magnifique au Canadien Marc de la Fontaine, alias Delaf. C'est illégal, selon Isabelle Franquin, seule héritière et ayant droit. Son père, André Franquin, s'était clairement opposé à un éventuel retour de Gaston après sa mort. Elle a donc saisi en urgence la justice belge pour faire valoir ce droit moral et suspendre la prépublication de la bande dessinée dans le journal de Spirou en avril. L'éditeur répond que si effectivement Franquin s'était exprimé publiquement contre une résurrection de Gaston après sa mort, les droits appartiennent bel et bien à Dupuis et les contrats autorisent une reprise de la série. L'affaire sera plaidée en mai. En tout, depuis sa création, 32 millions d'albums ont été vendus et le nouvel opus prévu en octobre devait bénéficier d'un tirage à plus d'un million d'exemplaires.
Nicolas Caro.
Voilà, 32 millions d'albums vendus pour Gaston Lagaffe. Peut-être un exemplaire chez vous, Julien ?
Ah, oh, même 3 ou 4 même.
Je suis sûr qu'on peut aussi trouver ça sur votre étagère.
En cherchant bien peut-être.
Ouais, j'en suis certaine. J'irai où tu iras. Alors, extrait de l'album 2 de Céline. Vous me l'avez réclamé, c'est parce que c'est son anniversaire aujourd'hui à Céline. 54 ans.
Ah bah on lui souhaite un excellent joyeux anniversaire, Céline, si tu nous écoutes.
Pour le plaisir de réécouter ce
depuis
morceau
depuis Las
aussi.
Vegas ou Québec, tu es dans nos cœurs.
Star internationale.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
6h08,
on passe au sport. Le journal des sports avec vous Martin Lange et football, deuxième match et deuxième victoire pour les Bleus en 2022.
Oui, l'équipe de France a balayé l'Afrique du Sud hier soir à Lille, victoire 5-0 grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Olivier Giroud aussi a marqué son 48e but en bleu, il se rapproche un peu plus du recordman Thierry Henry et ses 51 buts. À noter aussi la bonne performance de Jonathan Clauss, le Lensois sifflé par une partie du public lillois a été à la hauteur selon le sélectionneur Didier Deschamps.
Ça l'a pas empêché, je dirais même qu'au fil du match, ça s'est atténué de par ce qu'il faisait sur le terrain. Donc c'est son mérite. Je voulais le voir d'entrée aussi pour avoir des réponses un peu plus pour l'avenir.
Didier Deschamps, micro Europe 1 de Cédric Chasseur. Prochain rendez-vous pour les Bleus, la Ligue des Nations en juin.
Foot toujours et on connaît les nouveaux qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar.
Oui, dans la zone Europe, le Portugal a validé son billet en battant la Macédoine du Nord, 2-0. Ça passe aussi pour la Pologne, tombeuse de la Suède, 2-0 également. La surprise, elle est venue de la zone Afrique avec l'élimination de l'Algérie, battue après prolongation par le Cameroun. Qualification en revanche pour le Sénégal, la Tunisie, le Ghana et le Maroc. Enfin, pour clore cette page foot, le quart de finale retour de la Ligue des Champions féminine ce soir. Le PSG reçoit le Bayern devant plus de 26 000 personnes. personnes au Parc des Princes.
Des médaillés olympiques et paralympiques à l'honneur hier.
Oui, les 20 athlètes médaillés aux Jeux de Pékin ont été reçus et décorés hier à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Un grand moment pour Arthur Bauchet, 4 médailles aux Jeux paralympiques et nouveau chevalier de la Légion d'honneur.
On va quand même aux Jeux pour représenter la France, donc voilà, quand on arrive là et qu'on est reçu par le président et les ministres, c'est qu'on a fait le job, c'est qu'on a bien représenté la France. C'est quand même une belle reconnaissance du pays, donc on est très très fiers.
Arthur Bauchet au micro de Zoé Pallier.
En bref, pour finir Martin.
On connaît le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe de France de volley, l'italien Andrea Gianni, qui a tout gagné comme joueur, prend la relève du brésilien Bernardo Rezende, avec pour objectif les Jeux de Paris en 2024. Et puis peut-être une surprise dimanche, le champion du monde de cyclisme, Julian Alaphilippe, pourrait prendre le départ du deuxième monument de la saison, le Tour des Flandres. Il a été aperçu à l'entraînement sur un mont flandrien hier.
Merci beaucoup Martin Lange, c'était le journal des sports.
Merci à Martin, restez avec nous dans un instant. Cette question, est-ce réellement efficace d'abaisser la vitesse de 50 à 30 km/h? C'est ce qu'a fait cette nuit la ville de Lyon. On en parle dans un instant avec l'expert en mobilité Franck Cazenave, à tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est spécialiste en mobilité, auteur du livre La Robot Mobile aux éditions Descartes et Compagnie.
Bonjour Franck Cazenave.
Bonjour Julien.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors que la ville de Lyon s'est transformée dans la nuit en immense zone 30, c'est la vitesse maximum désormais dans 84% précisément des rues de la capitale des Gaules, qui imite en ce sens Paris, où cette même mesure a été instaurée en août dernier. On a donc un peu de recul. Est-ce que ça marche de passer de 50 à 30 km/h?
Alors, est-ce que ça marche? Ça dépend pourquoi. Les villes cherchent d'abord à apaiser la circulation, à rendre potentiellement les routes plus sûres. Donc, la distance de freinage entre 50 km/h et 30 km/h passe de 26 à 13 mètres. Donc, de ce côté-là, ça a des avantages pour la sécurité routière.
C'est bon pour l'accidentologie, oui.
Exactement, pour réduire l'accidentologie, on sait que en ville, bon, il y a des accidents, il y a aussi des accidents entre les véhicules et les piétons. Donc sur Lyon en 2021, il y a eu 17 piétons tués dans des accidents de la route à cause de véhicules. Donc il y a cette recherche de la sécurité routière. D'un autre côté, sur la partie pollution, sur les émissions, par exemple, de dioxyde de CO2, d'azote, pardon. En fait, l'étude du CEREMA, qui est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, l'aménagement, qui est un laboratoire public, un centre d'études public, a sorti une étude l'année dernière qui montre que quand un véhicule roule à 30 km/h, en fait, le moteur est froid, le moteur thermique. La combustion n'est pas optimale et donc on surémet à plus de 25% par rapport à 50 km/h des dioxydes d'azote.
Donc on pollue plus à 30 qu'à 50.
Tout à fait. Donc c'est l'étude du CEREMA qui a été publiée l'été dernier qui le démontre.
Donc cette étude va même plus loin, hein, si je peux me permettre. Elle dit qu'on rejette plus de particules fines et de gaz à effet de serre à 20 km/h qu'à 130. C'est lié à la conception même de nos véhicules ?
Tout à fait. Le moteur thermique, faut rappeler ce que c'est. Donc, on a un carburant, soit de l'essence, soit du diesel, qu'on va brûler pour générer de l'énergie et permettre au véhicule de se mouvoir. Mmh. Bon. Donc, la combustion, elle est optimale quand le moteur est chaud. Pour que le moteur il soit chaud, il faut avoir une certaine vitesse et demander une combustion suffisamment puissante. Donc, quand on est à 20 km/h, bah forcément, le moteur reste froid. Donc la problématique avec ce passage à 30 km/h, c'est la combustion au niveau des moteurs thermiques qui n'est pas optimale, qui n'est pas prévue pour fonctionner tout le temps à 20 ou 30 km/h.
Après, au-delà de ces bénéfices ou de ces inconvénients, on comprend bien que cette mesure a pour objectif principal de pousser les automobilistes à laisser leur voiture au garage. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que depuis le 31 août dernier à Paris, on constate qu'il y a moins de voitures en circulation comparativement aux années précédentes?
Là, c'est difficile à dire. J'ai pas vu d'études détaillées sur la circulation. Enfin, on voit que sur Paris, depuis la reprise,
il y a beaucoup de bouchons.
Du présentiel. Voilà, il y a beaucoup de bouchons. Donc ça, c'est un indicateur sur la fréquentation des routes. Et quand on regarde l'indicateur sur les bouchons, on voit qu'il y a une reprise normale des bouchons avant Covid, comme avant Covid. Donc, on peut se dire que il n'y a pas eu d'influence sur du 30 km/h sur l'utilisation du véhicule.
Bon, de toute façon, une autre mesure va forcer de nombreux automobilistes à changer leur mode de déplacement. C'est la généralisation des ZFE, hein, les zones à faible émission, avec le système de vignettes critères que connaissent bien les Franciliens, de 0 à 5 en fonction de l'âge et de la motorisation du véhicule. Les critères 4 et 5 ont d'ores et déjà interdiction de rouler dans le Grand Paris de 8h à 20h. S'ajouteront les critères 3 en début d'année prochaine, puis les critères 2 la suivante. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Cazenave?
Alors, j'ai participé avec l'Institut CSA à une étude nationale sur la mise en place des ZFE. Nous l'avons publiée la semaine dernière. Donc déjà, quand vous dites que les Français connaissent bien la vignette critère, en fait, c'est pas le cas. Il y a que 52% des Français qui connaissent critère, alors que ça a été mis en place depuis des années. Et quand on a demandé aux Français de donner le bon critère de leur véhicule, il n'y a eu que 29% des personnes interrogés qui ont été capables de donner le bon critère de leur véhicule. Tout simplement, vous pouvez le comparer puisque nous demandions l'année, le modèle, la marque du véhicule, le type de motorisation, et on était capable de reconstituer la vignette critère et de demander aux propriétaires de véhicules leurs critères. Donc déjà, l'étude a montré que critère n'est pas connu, est mal maîtrisé, vous imaginez 29%, et que 14% des possesseurs de véhicules critères 4 et 5 connaissent leurs critères.
Non, mais ça va changer parce que d'ici 2025, il y aura 43 ZFE en France. C'est imposé par la loi Climat et Résilience, si je ne m'abuse.
Tout à fait. Alors, est-ce que ça va changer? Faut l'espérer. C'est pour ça que aussi nous avons réalisé ce premier baromètre pour sensibiliser les Français sur la mise en place des ZFE. Mais on voit qu'il y a un travail énorme à faire. Quand on demande aux Français qu'est-ce que c'est que la ZFE, 95% nous disent on en a entendu parler, mais quand on leur demande la définition précise, il n'y a que 37% des Français qui donnent la bonne définition.
Or, il y a urgence parce que, comme je le disais, d'ici juillet prochain, enfin en tout cas l'année prochaine en région Île-de-France, les voitures critères 3 ne pourront plus entrer dans le Grand Paris. C'est très concret là.
Tout à fait, c'est très concret. Alors, pour l'instant, la métropole du Grand Paris a décidé de repousser la mise en place de systèmes automatiques de détection des infractions. Je rappelle que l'infraction, c'est 68 euros. Donc, ça peut taper très fort au niveau du portefeuille des Français, et en particulier des propriétaires de véhicules critères 4 et 5.
Il y a combien de véhicules critère 3 aujourd'hui en circulation en France, Franck Cazenave?
Il y a 10 millions de véhicules critère 3, selon les statistiques du ministère de la Transition écologique, qui sont en circulation en France.
Donc un quart
sur
des véhicules qui roulent, quoi, à peu près.
Pardon?
Un quart des véhicules qui roulent actuellement en France, à peu près.
Un peu plus, tout à fait, puisque c'est 38 millions le parc roulant en France, donc on est un peu plus de 25% sur les critères 3. Donc, il y a le problème des critères 4 et 5, c'est 5 millions. Ce sont des véhicules souvent anciens, de plus de 20 ans. Et puis, les critères 3 sont des véhicules qui, aujourd'hui, ont un peu plus d'une dizaine d'années. La moyenne du parc en France, c'est 12 ans. Donc, on voit que c'est vraiment des véhicules qui sont utilisés quotidiennement par les Français pour entrer dans les ZFE. Et là, il y a un problème. Donc, on a besoin, d'informer les Français, mais aussi, la vitesse du changement est un problème.
D'ailleurs,
les Français...
vous disiez dans votre étude avec le CSA, pardonnez-moi de vous interrompre, mais qu'un tiers des automobilistes n'auront pas les moyens, dans les années qui viennent, de passer à un véhicule propre. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que les ZFE sont des bombes sociales à retardement, en fait.
Ce sont des bombes sociales parce que si on interdit aux Français de rentrer dans les ZFE alors qu'ils utilisent quotidiennement leur véhicule, ils vont se retrouver sans alternative. 80% des Français qui ont un véhicule critère 3, 4, 5 utilisent leur véhicule pour entrer dans les ZFE régulièrement. Donc, c'est leur moyen de transport du quotidien. Et effectivement, 36% des Français déclarent qu'on leur demande, ils ont 0 euro pour changer de véhicule. Donc les Français ne sont pas contre les ZFE. Les Français qui sont impactés par les ZFE à 54% sont d'accord avec le principe. Le problème, c'est le fait de pouvoir. C'est le pouvoir d'achat qui est le problème. Oui. Et il y a aussi que 27% des Français qui déclarent pouvoir investir que 3 990 euros, c'est-à-dire un véhicule d'occasion.
Ce qui est largement insuffisant, oui. pour s'offrir un véhicule propre à l'heure actuelle. Merci beaucoup Franck Cazenave d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La Robomobile aux éditions Descartes et Compagnie. Excellente journée à vous.
Merci, au revoir.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
En Ukraine, les combats continuent, mais Volodymyr Zelensky, le président, évoque des signaux positifs après de nouvelles négociations avec la Russie hier en Turquie. Il indique cependant que l'Ukraine n'a pas l'intention de relâcher ses efforts militaires. Moscou, qui s'est engagé à réduire les combats, notamment autour de Kiev, mais dans le sud de l'Ukraine, les frappes se poursuivent. Un bâtiment de l'administration régionale de Mykolaïv a été partiellement détruit hier, faisant 12 morts et au moins 33 blessés. L'affaire Orpea, le gouvernement annonce la publication dans les prochains jours du rapport d'enquête administrative visant le groupe d'EHPAD privé, pointant des dysfonctionnements graves.
On termine avec votre partition, Omblin, consacrée ce matin aux Red Hot Chili Peppers qui inaugureront demain leur étoile sur le célèbre Hollywood Boulevard à Los Angeles. L'occasion, Omblin, de revenir sur la fabrication de l'album Californication.
Et vous le savez bien, Julien, ce titre de disque ironise sur le mythe hollywoodien, paradoxe qui nous fait donc doucement sourire ce matin puisque les Red Hot Chili Peppers vont se retrouver très exactement au point de convergence de toutes les représentations du rêve américain qu'ils dénoncent. Hey, to break the spell of aging, celebrity skin, is this your gender, is that war you're waging, firstborn unicorn.
Californication sort en juin 1999 et il est souvent considéré comme le premier album du reste de la carrière du groupe.
Et oui, l'album qui va sauver les musiciens du tourbillon de la drogue. Les problèmes de dépendance remontent à la fin des années 80 et ils ont rendu la cohabitation entre les membres de plus en plus compliquée. Après le blockbuster Blood Sugar Sex Magik 8 ans plus tôt, l'album qui a vu les Red Hot atteindre des sommets vertigineux de succès, le guitariste John Frusciante s'en va pour suivre une carrière de junkie, s'approchant dangereusement de la mort.
Californication est donc marqué par l'empreinte de Frusciante, ce revenant.
Oui, John Frusciante, clean, guéri, réintègre le groupe, mais avec un son de guitare différent. Il faut dire qu'il s'est peu entraîné sur son instrument pendant qu'il se requinquait, et ce jeu, moins technique, minimaliste, va faire date.
Non seulement le jeu de John Frusciante qu'on entend s'est adouci, mais le son des Red Hot Chili Peppers a évolué.
Avec comme règle désormais mettre la mélodie au premier plan, ce qui n'était pas forcément le cas dans les 6 albums précédents. Chaque note a droit à un peu plus de place. Les Red Hot ne sont pas effrayés à l'idée de ralentir le tempo. Quant à l'ancienne partition punk sur les bords, elle est franchement plus rock. Un rock fait pour séduire le plus grand nombre.
Et puis celui qui sort particulièrement du lot, c'est le chanteur.
Oui, Anthony Kiedis déploie un chant mélodieux, rarement aussi bien assumé. Il fait une démonstration des capacités de son timbre, à la fois sensible et affirmé. Il est également à l'origine du visuel iconique de la pochette. Il lui est apparu en rêve. Anthony Kiedis raconte, il y avait une piscine, le ciel était dans l'eau, l'eau était dans le ciel.
C'est le début d'une nouvelle période dorée pour les Red Hot Chili Peppers.
Oui, Californication sert de ciment au groupe et en guise de conclusion, une chanson sur l'amitié qui ne ressemble en rien à ce qu'ils avaient enregistré auparavant, un morceau acoustique sans batterie ou la guitare. Guitare occupe tout l'espace. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun.
let's check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
Road Trippin, la dernière chanson du disque Californication des Red Hot Chili Peppers. Le nouvel album Unlimited Love sortira la semaine prochaine, le 1er avril. Album qui marque à nouveau le retour du guitariste John Frusciante, 10 ans après son deuxième départ du groupe.
Parce que le 1er avril, c'est la semaine prochaine, Omblin.
Effectivement.
Non, c'est vendredi.
C'est vendredi.
Merci beaucoup, Omblin.
C'est dans 2 jours.
C'est Californication, voilà. C'est
le temps passe tellement
c'est
vite.
C'est le décalage horaire avec Los Angeles. Avec Los Angeles. Merci beaucoup, Omblin. Restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko est avec nous.